À l'écoute de Calade, tout de suite, le magazine. Nous sommes allés au centre scolaire Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône pour découvrir un projet scientifique mené par une professeure de SVT, Madame Rachel Payon, et ses élèves en 3e prépa métier autour du blob. Cette classe a participé au programme national de recherche initié par le docteur Audrey Dussutour, éthologue et directrice de la recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui a lancé une expérience participative par le biais d'une vaste collecte de clichés de blobs auprès de 4500 établissements scolaires. C'est donc dans ce cadre de la semaine des expériences éducatives, mi-octobre, qu'un élevage de blobs a pu démarrer au centre scolaire Notre-Dame, l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette étrange créature et de s'intéresser à ce génie sans cerveau, cet organisme unicellulaire méconnu qui n'est ni plante, ni champignon, ni animal, mais un peu des trois à la fois.
Rachel Payon, enseignante en biotechnologie au lycée technologique de Villefranche et en SVT aussi pour les troisièmes. Donc c'est un projet qui a été réalisé cette année avec les troisièmes prépa métiers. Voilà, on a répondu à un appel d'une chercheuse du CNRS qui avait besoin d'obtenir des résultats avec les blobs. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'un blob ?
Alors, effectivement, il y a 6 mois, je ne savais pas que cette créature existait. Et j'en ai entendu parler à la radio. Et puis, fin d'année dernière, le projet a été lancé pour les troisièmes. Je trouvais que c'était un projet intéressant pour les initier à la démarche expérimentale. Et d'autant plus qu'il y avait un gros enjeu, parce qu'il s'agit de comparer nos résultats avec ceux obtenus par Thomas Pesquet dans l'ISS. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est un blob ?
Alors, un blob, c'est un organisme unicellulaire, mais qui a une particularité, c'est qu'il se déplace pour trouver sa nourriture. Voilà. Et il est intéressant comme sujet d'étude parce qu'il est unicellulaire, mais il est visible à l'œil nu, il est assez gros. Il peut même aller jusqu'à 10 mètres carrés. S'il a très faim, en fait, il va se déplacer jusqu'à ce qu'il trouve sa nourriture. Voilà, donc là, il a un petit peu débordé dans ma boîte cette nuit. Et voilà, j'ai appris à le cultiver, à le maîtriser avec les élèves.
Justement, on va se rapprocher d'eux, des élèves.
Je m'appelle Lucas Giroux, je suis 3e prépa métier, hein, et on a fait une expérience sur le blob. On l'a nourri et on a comparé nos résultats avec ceux de Thomas Pesquet. Bah, c'est assez intéressant parce que déjà c'est unicellulaire et on le voit à l'œil nu, oui. Et ça a une capacité d'extension et ça s'adapte bien à ces milieux.
T'en avais entendu parler avant ?
Non, je ne connaissais pas le blob avant. C'est juste une créature unicellulaire, ça fait bizarre qu'on peut voir à l'œil nu.
Pour les auditeurs, comment tu la décrirais ? Les couleurs, les formes ?
C'est jaune, c'est tout plat. Et c'est un peu gluant. Ça produit comme les escargots du mucus. C'est comme ça qu'ils s'accrochent sur les boîtes.
Moi, je m'appelle Com Durif. Je suis en classe de 3e prépa métier 1 aussi. Et bah, j'ai réalisé l'expérience avec Madame Payon.
Qu'est-ce qui t'a intéressé ?
Surtout pour les photos, c'était très intéressant. Pour voir comment ils se déplacent. Bah, dans la boîte qui est juste là, d'ailleurs. On a mis un blob et on devait prendre des photos chaque heure pour voir comment ils se déplaçaient, suivant où il allait.
Qu'est-ce que vous avez pu observer ?
Bah, qu'il se déplaçait pour trouver sa nourriture. Il va quand même assez vite, ouais, par rapport à d'autres créatures, oui.
On peut donner un exemple pour imager ?
Par exemple, ça va moins vite qu'une limace, mais ça va vite quand même.
Est-ce que tu peux réexpliquer peut-être les travaux de Thomas Pesquet et puis les différences ?
On a comparé des placements sur du blob dans l'espace et sur la Terre. Et dans l'espace, on a vu qu'il se décollait de sa boîte comme s'il volait, mais il vole pas en fait.
Il produit des pseudopodes en 3D, des espèces de pieds qu'il crée et qui s'accrochent aux parois dans les airs en 3D. Pas longtemps, mais il en fait. On a marqué ça sur le blob de Thomas Pesquet. Je pense que c'est à cause de la gravité, de l'absence de gravité. Donc la gravité sur la Terre, elle le laisse plat. Il rampe par terre.
Sur le blob, en fait, c'est un animal ou c'est un végétal ?
Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un champignon. On l'a d'abord classé dans chacun des groupes. En fait, on pensait que c'était un animal parce qu'il se déplace, que c'était un végétal parce qu'il produit des pigments comme le pigment jaune, que c'était un champignon parce qu'il produit des spores. Mais en fait, comme il fait les trois à la fois, ce n'est aucun des trois. Et il a été classé dans la famille des amébozoaires. C'est un myxomycète et qui est dans la famille des amébozoaires. Voilà. Et c'est intéressant comme objet d'étude, parce que comme c'est une seule cellule, ça permet d'étudier facilement les changements de comportement d'une cellule. C'est plus facile de l'étudier au niveau cellulaire qu'au niveau d'un organisme. C'est plus simple à étudier.
Comment vous appelez ça ?
Pseudopode. C'est comme des pieds, les espèces de pâtes. Oui, bah, il s'étend à l'infini. Et aussi, le blob, quand on le coupe en deux, bah, ça fait deux blobs. Il peut se reproduire à l'infini. Il a 720 genres sexuels, je crois. Oui.
Et donc, avec le CNRS, la suite de l'expérience, c'est de rendre compte de vos travaux donc à travers des photos et puis peut-être une rencontre, non ?
On va lui envoyer nos photos, éventuellement même l'exploitation de certaines de nos photos. Et en fait, elle a demandé à 4500 établissements de faire la même expérience. Ça va lui permettre d'avoir des résultats reproductibles et exploitables pour faire une publication scientifique. Donc, c'est Madame Audrey Dussutour qui est la spécialiste française du blob en France, au CNRS à Toulouse.
Et on peut imaginer que le climat a des influences ?
Oui, en fait, elle va lancer une nouvelle expérience participative, hein, parce qu'en fait, c'est des expériences participatives. Elle vient de la lancer, ça va être pour étudier le réchauffement climatique sur le comportement du blob, parce que c'est un organisme qui est sensible à la chaleur. Et donc, je pense qu'elle va nous demander de faire des expériences aussi, en le mettant dans des conditions de température différentes et d'analyser les résultats par rapport à ses déplacements et pour faire une autre publication.
Aujourd'hui, en classe, comment vous vous y prenez ? Il faut s'en occuper quotidiennement ?
S'en occuper toutes les heures, donc prendre des photos, noter la température et voir les déplacements qu'il a fait.
Et vous n'avez pas que ça comme matière, donc comment ça s'organise ?
En fait, toutes les 1 heure, on prévient notre professeur au début du cours et à 15h, par exemple, on va prendre les photos du blog et on revient en cours.
Content de cette expérience ?
C'était bizarre au début, mais après, c'est bien passé du coup.
C'est intéressant aussi, parce qu'on ne connaissait pas, donc découverte.
D'accord, donc là, pendant les vacances...
Nous allons les rendormir pendant les vacances. Et leur blob qui a servi pour faire l'expérience s'est rendormi donc à la fin de l'expérience. Et pour être sûr qu'il est bien endormi et pas mort, à la rentrée, nous tenterons de le réveiller en le réhumidifiant. Comment on l'endort ? On va le faire sécher. Tout simplement, on va en mettre un petit morceau sur un papier filtre et sans lui donner à manger, il va s'étendre d'abord, il va aller chercher à manger et comme il n'aura pas d'humidité, il va s'endormir, il va devenir une sclérote. Voilà, et il peut rester sous forme de sclérote pendant 2 ans. Il peut être réveillé en le réhumidifiant 2 ans après. Voilà, c'est un organisme qui est quasi immortel si on ne le met pas dans des conditions catastrophiques.
Il se nourrit de quoi alors ?
Il se nourrit des bactéries, donc sur les flocons d'avoine dans le laboratoire. Sinon, il se nourrit de champignons. On a testé, on a mis plein d'aliments différents pour voir ce que le blob préférait. On a mis du poulet, du pain, de la confiture, de la pomme, de la sauce et du fromage. Du coup, il est allé sur le pain en premier et sur le flocon d'avoine. Et un petit peu sur la sauce, on voit là. Il est un peu plus jaune sur la sauce.
En fait, en classe, on travaille sur les 7 groupes d'aliments. Donc, on a proposé au blob un aliment de chaque groupe et pour voir s'il a une alimentation équilibrée comme la nôtre. Donc, pour l'instant, on l'a fait hier, il a attaqué 3 aliments.
Donc, en fait, là, il y a une seule cellule.
C'est une cellule, oui, qui émet des pseudopodes, en fait.
Donc, cette cellule qui est centralisée plutôt là, en fait, qui fait quoi ? 2 cm de long sur 3 mm de large, à peu près. Mmh. Elle fait des espèces d'excroissances, de fils.
C'est ça. Et elle va optimiser ses trajets, parce que c'est un organisme qui, finalement, est intelligent, alors qu'il n'a pas de cerveau. Il va optimiser ses trajets lorsqu'il a trouvé la meilleure source de nourriture. Après, il va faire juste une extension pour utiliser un minimum d'énergie pour aller trouver sa nourriture, en fait.
Là, si on coupe les 2 fils, là, on a 3 blobs.
Voilà. Hier, il était là. Cette nuit, il a fait tout ça.
Donc, en fait, il a tendu une sorte de fil vers l'aliment qu'il préfère et après, il déplace tout le reste de sa cellule vers l'aliment qu'il préfère.
Voilà. Il va manger tous les nutriments et les bactéries qu'il y a dessus.
Et dans la nature, ça se trouve où, ce genre de...
Dans les zones humides, sombres, donc dans la forêt ou dans les jardins, sous les souches d'arbres. ou dans les troncs humides.
Cette boîte, elle a été confectionnée par des élèves ?
Oui, avec l'enseignante d'art plastique, parce que le blob vit dans l'obscurité, donc on suivait le protocole expérimental très précisément hein, pour être exactement dans les mêmes conditions que celles de Thomas Pesquet, et il ne fallait pas sortir le blob de sa boîte. Donc on a fait un trou pour la lumière et un trou pour l'objectif du téléphone, pour prendre les photos toutes les heures.
Tout à l'heure, on disait que c'était un organisme intelligent.
Oui, intelligent, parce qu'il est capable d'optimiser ses réseaux pour aller trouver sa nourriture, c'est-à-dire utiliser le moins d'énergie possible pour trouver sa nourriture. Il est capable d'apprendre des choses et même de les transmettre à un autre de ses congénères par fusion. Par exemple, si on met deux blobs l'un en face de l'autre, par déplacement, ils vont se regrouper et fusionner. Et celui qui a appris l'information est capable de transmettre l'information à l'autre blob. Par exemple, ils détestent le sel et dans les expériences au CNRS, ils ont appris à aimer le sel. Et celui qui a appris à aimer le sel a transmis l'information à l'autre blob, qui lui est directement passé sur le sel pour aller chercher sa nourriture.
Blob, ça veut dire quelque chose ou...
Alors blob,
non,
je connais plus le nom.
En fait, ça, il s'appelle Physarum polycéphalum. Voilà, donc Audrey Dussutour l'a surnommé le blob en référence à un film d'horreur justement qui avait été tourné dans les années 50 avec Steve McQueen où c'était une créature gluante qui sortait partout et qui allait sur tout le monde, les êtres humains,
etc. Oui, parce que vous disiez 10 mètres carrés,
Voilà. Et comme effectivement c'est une créature qui produit du mucus en se déplaçant, qui est un peu gluante et qui peut grimper un peu sur n'importe quoi, ça lui a fait penser au blob, voilà. Donc dans les expériences, les élèves l'ont appelé Blobby. Ils ont donné pas mal de surnoms, voilà, parce que finalement on s'y attache et on a du mal à s'en séparer.
Vous avez eu envie que les élèves vivent l'expérience de recherche, pas simplement se contenter de poser l'appareil.
Ils se sont relayés toutes les heures par groupe de deux pour venir prendre les photos. Il y en a quelques-uns qui ont oublié, qui se sont fait houspiller par les autres parce qu'ils ont oublié la photo. Donc ça a été un travail collaboratif en fait.
S'immerger dans ce protocole de recherche donc pour que les élèves comprennent aussi l'objectif, l'enjeu et dans quoi tout ça s'inscrit.
Oui, dans la démarche expérimentale en fait, qu'ils apprennent à poser des questions, émettre une hypothèse pour répondre à ces questions et proposer des expériences qu'on peut réaliser pour répondre à ces hypothèses et faire des conclusions après. Voilà, observer et puis se rendre compte que la recherche, ça marche pas toujours comme on voudrait et bien leur blob, pour certains d'entre eux, il est allé toucher les flocons pendant la nuit, on n'a pas pris des photos à ce moment-là, donc on ne peut pas répondre à toutes les questions. Voilà, et donc il faut recommencer. Et la recherche, c'est ça, c'est sans arrêt se rendre compte de ce qui s'est passé, recommencer, refaire.
Alors, on parlait du CNRS, mais alors sur cette étude proprement parlée, c'est en lien aussi avec le CNES.
Ah oui, avec le Centre National d'Études Spatiales, voilà. Et le CNRS, et on a été très très bien coaché par le docteur Audrey Dussutour, qui est la référence en matière de blob en France. Elle a très très bien réussi à nous expliquer comment faire ce protocole qui paraît tout simple, mais en fait qui est très très précis. Il fallait relever la température, l'hygrométrie, pas mettre de lumière, une certaine quantité d'eau, une certaine distance des flocons. C'était quand même assez précis. On a été très très bien guidés. Elle est éthologue, oui. Elle étudie le comportement des animaux et en l'occurrence spécialiste en blob.
Voilà, et elle a su aussi, à travers les réseaux sociaux, capter aussi les jeunes sur ce projet.
Ah oui, 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 il y a eu un enthousiasme assez important par les élèves au travers des enseignants. Et effectivement, avec les réseaux sociaux, ça a été... elle a très bien communiqué. Parce que personne ne maîtrisait vraiment cet organisme, en fait, au départ.
C'était Côme Durcif et Lucas Giroux, deux des élèves en 3e prépa métier, avec des professeurs et notamment Madame Payon, enseignante en SVT au centre scolaire Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône, qui envisage de poursuivre l'expérience du blob avec des premières STL cette fois, toujours dans l'optique de les initier à la démarche de projet scientifique. On peut bien sûr suivre, comme des milliers de scolaires à travers la France, la campagne du CNRS du docteur Dussutour, référente nationale sur le sujet des blobs, sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube en tapant « Blob, une intelligence sans cervelle ». C'était une immersion proposée en milieu scolaire autour des blobs. Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.